Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 27 mai 1993.
Continuons. Essayez de comprendre la signification de nos cinq sens. Philosophie du vivant. Vous voyez qu'il y a tout un aspect descriptif qui est très intéressant. Il faudrait développer du reste. Et puis après, voir le caractère spécifique de chaque sens. Il y a tout un aspect descriptif qui est important du reste à développer. Donc les deux sens extrêmes, le toucher, je ne reviens pas, sens du vivant, la vie a besoin du toucher, parce que c'est le sens du contexte dans lequel on est. On a fait des expériences très curieuses au Canada là-dessus, en isolant autant qu'on le peut, parce qu'on ne peut pas isoler quelqu'un. Donc c'est toujours un peu imaginatif, on isole quelqu'un dans une cabine, pour l'isoler complètement de son milieu et voir combien de temps il tient. Alors les hommes tiennent moins longtemps que les femmes. C'est là le résultat, donc ça fait partie de questions d'essayer de comprendre pourquoi. C'est très curieux. Hein. Ce qui prouve que la femme a des réserves d'immanence plus grandes que l'homme. Hein. Puisqu'elle tient plus longtemps. J'ai lu un article il y a une dizaine d'années là-dessus. C'était très intéressant. Mais c'est un peu fallacieux. Vous ne pouvez pas vous abstraire, puisque vous êtes au moins dans une cabine. Mettez-vous dans le néant, dans le vide. C'est impossible. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est imaginatif. Là, c'est intéressant, un point de vue. Voir qu'on est dépendant du milieu dans lequel on est. Est terriblement dépendant. Ça, c'est le toucher. Alors, évidemment, les carnes mollas sont différentes. Un hippopotame peut résister davantage qu'un homme. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'il est hippopotame. Alors, il a une capacité d'autonomie très grande. Oui, c'est très intéressant de voir que la capacité d'autonomie ne veut pas dire du tout la qualité d'un vivant. Soyez hippopotame, vous serez très autonome. Tandis qu'on va à quelqu'un qui est très sensible et très dépendant de son milieu. Il y a une espèce de dépendance du milieu du vivant et l'homme est plus dépendant de son milieu que les autres animaux. Mais il a en même temps, alors c'est plus le toucher, c'est l'aspect de l'intelligence et de la volonté, une capacité d'isolement beaucoup plus grande. Et bien alors, c'est pas le toucher. Le toucher, c'est le milieu. Je suis dépendant du milieu. Chaleur, froid du sec, humide. Mais ça fait partie de cette sensibilité propre de l'homme. Et on est dépendant du milieu plus que n'importe quel autre animal. La vision, c'est l'horizon. Besoin de pouvoir regarder au loin. C'est des grandes plaines, le désert, l'océan. L'homme a besoin de ça, c'est juste l'inverse. Et ça fait comprendre comment la vision est beaucoup plus imaginative. Ça, on le verra après avec l'imagination. Et je crois que c'est important de voir ça. Notre imagination est plus dépendante de notre vision que notre toucher. Il y a des imaginations du toucher, mais elles sont beaucoup moins développées. Alors, ça faudra regarder nous. On regardera pour la question de l'imagination, les rêves. Mais c'est sûr que la vision, c'est le dépassement des limites. Et la vision, elle est faite pour la détermination de la forme, la qualité, les couleurs, les sensibles propres, la lumière. Et la lumière fait l'unité de l'univers. C'est pas la chaleur qui fait l'unité de l'univers, puisque dans l'univers, il y a des coins qui sont pas très chauds.
Say.
c'est l'homme de l'ouïe. Et le grec, c'est l'homme de la vue. Alors on voit l'œil qui donne l'indépendance, ce qui donne la détermination. On est indépendant dans la mesure où on connaît la détermination. Et l'autonomie repose là-dessus. Ce qui est vrai, du reste. Le toucher, c'est pas le sens de l'indépendance. C'est le sens, au contraire, de la dépendance du milieu dans lequel on est. Et là, le point de vue de l'œil, c'est, puisque c'est le foulecan, ça nous donne la liberté, l'indépendance, donc l'autonomie. Et l'ouïe, c'est la dépendance à l'égard de l'homme, à l'égard d'un autre homme. C'est le sens de l'altérité. C'est le sens de celui qui accepte d'être enseigné. Le sens du rythme de la musique, du chant, alors je crois que là on touche les trois sens principaux, oui, toucher, la vision, l'ouïe, et décrivez ça, c'est intéressant de voir que pour un aveugle, alors il y a les compensations, le développement de l'ouïe et le développement du toucher. Parce qu'il n'a plus la vue. Tandis que quand vous avez la vue gêne l'ouïe et gêne le toucher, puisque c'est le sens de l'indépendance, l'horizon. Et vous satisfaisez, on se satisfait de voir sans toucher. Notre monde est un monde qui perd le sens du toucher et qui augmente le sens de la vue. Ça aussi, c'est très intéressant de voir que là, on est beaucoup plus dépendant de la Grèce. La Grèce a très fort le sens. Il suffit de regarder les tragiques grecs. Ils ont un sens extraordinaire de la lumière. Tandis que les sémites, c'est très vrai, ont un sens beaucoup plus grand de l'ouïe. Éducation. Et dans la mesure où l'imprimerie s'est emparée de notre culture, le sens de l'ouïe diminue et le sens de la vue augmente. Il y a toutes ces questions-là qui sont très intéressantes à regarder. Faire un chantier sur le toucher. Un chantier. Vous voyez, dès qu'on s'occupe de l'éducation, faire un chantier sur le toucher, sur la vision, sur l'ouïe. Trois grands chantiers et qui donnent des caractères différents de chacun selon justement que ses sens sont plus ou moins développés. Et quand la vue diminue, le toucher, alors on est plus attentif au toucher. Quand l'ouïe diminue, on est plus attentif aussi au toucher. Le toucher et l'ouïe sont des sens plus affectifs que la vision. Parce que la vision, c'est plus l'indépendance et la détermination. Le toucher et l'ouïe sont des sens très liés à l'affectivité. Il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles à la voix. Si vous avez une voix douce, très douce, et au contraire une voix de commandement, de sergent, d'agent de police, pas très doux. Quand vous êtes appelé à la police, remarquez, faites attention aux voix des policiers. C'est pas précisément doux. Il y a le sifflet, c'est qui est la mesure. Et leur voix tendre vers ça devient que se cassant. Oui, tout ce que l'on peut saisir, l'ouïe, le sens de l'éducation. Ça, c'est sûr. Le sens. postérité. Et Louis peut, par le chant, nous donner un sens aussi de la reconnaissance, du remerciement, de la politesse. Être attentif à l'autre, c'est la politesse. L'odorat, le sens de la finalité. L'odorat est lié au milieu dans lequel on se trouve. Plus la chaleur est grande, plus on est dépendant de l'odorat. Et quand il fait froid, l'odorat est beaucoup moins développé. Les pays nordiques et les pays méditerranéens, ou les pays du sud, l'odorat est beaucoup plus développé. Et la finalité devrait être beaucoup plus développée. Ce n'est pas toujours comme ça, parce que la culture moderne est moins orienté vers l'odorat et plus orienté vers les visions. Et ça, normalement, est le point de vue du goût. C'est un sens très curieux, puisque c'est le sens du goût, c'est le sens de la parole. Et la bouche sert à goûter. Par le goût, c'est lié très fort au toucher. Mais un toucher interne. Alors, c'est un sens. Vous voyez, le toucher ne nous donne pas ce que c'est que le goût. C'est le sens de l'aliment. Le toucher n'est pas directement le sens de l'aliment. C'est le sens du milieu dans lequel on est. Chaleur et froid. Le goût aussi, c'est la chaleur et le froid. Et c'est aussi le sec et l'humide. C'est aussi le cru et le cuit. Le sens très affiné du goût chez les connaisseurs de vin. Les pays de vin affinent le goût. Et les grands connaisseurs de vin ont un goût extraordinairement délicat et discernement. Tous les gourmets ont un sens extrêmement affiné du goût. Tandis que regarder le chien qui prend sa nourriture, on n'a pas l'impression que c'est un gourmet. la sensation du goût, la sensation du toucher. Le goût ne touche pas les mêmes sensibles propres que le toucher. Il y a des choses communes, puisque le goût saisit la chaleur et le froid. La glace et le bouillon. Et vous pouvez mettre petit doigt dessus avant. Vous touchez. Et vous touchez tout de suite si c'est chaud ou si c'est froid. Grâce à votre petit doigt, plus ou moins affiné. Parce qu'il y a des petits doigts qui sont comme des pouces. Alors, il faut chercher pour chaque sens les deux premiers qui commandent tout, les sensibles propres. Et ensuite, vous déterminez les sensibles communs. Les sensibles communs, c'est l'aspect quantitatif. C'est le sujet des sensibles propres. Il y a les cinq sensibles communs. Aussi la quantité et le nombre, le mouvement et le repos, et la figure. Il y a cinq sensibles communs, c'est-à-dire qu'ils sont atteints par divers sens. Ne mettez pas le chaud et le sec, alors que de fait, c'est la main et le palais. Alors ils sont sensibles comme un, seulement de deux. Et le sensible propre de la main, c'est sûr, c'est la chaleur et le froid. Donc, il ne vous dirait pas ça de la peau, du palais et de du cou. Donc vous discernez cela, et à la suite des sensibles propres, et à la suite des sensations, il y a l'imagination. Avant l'imagination, Aristote parlera du sens commun, le sensus communis. C'est pas du tout le sens commun de Descartes. Hein, faut faire attention. Le sens commun a pris avec Descartes une signification tout autre. Le père Garrigou dit que la philosophie réaliste, c'est la philosophie du sens commun. C'est très fou. C'est pas du tout la philosophie du sens commun. C'est au contraire la philosophie du sens propre. Pour Aristote, il y a un sens commun qui permet d'avoir conscience des différentes sensations et de les opposer. Alors le sens commun lie les cinq. C'est le cerveau. Et à partir du sens commun, il y a l'imagination. Sartre qui a une imagination tactile, une imagination visuelle, une imagination du goût, de l'odorat et de l'ouïe. L'imagination est formée à partir des cinq sens. Et l'imagination apporte quelque chose de tout à fait particulier. Alors, c'est aussi quelque chose de très intéressant à développer. C'est le point de l'imagination. Il n'y a pas beaucoup de traités d'imagination. Le premier, Aristote. Le traité de l'imagination chez Aristote est extrêmement intéressant. Vous avez un chez Kant qui est aussi très intéressant, et vous en avez un chez Sartre. Il y en a beaucoup d'autres, je prends trois traités d'imagination qui sont extrêmement intéressants. Mais c'est curieux que quelqu'un comme Sartre est intéressant vis-à-vis de la négation et vis-à-vis de son imagination. Parce que là, on retrouve il montre que l'imagination inverse le rapport des sens sensibles, des sensibles propres et des sensibles communs. Et je crois ça très intéressant à noter. Aristote ne l'a pas noté. L'image est le fruit de l'imagination. Nous sommes une culture imaginative d'image, beaucoup plus que les Grecs. Le cinéma et tous les arts qui ne sont pas les arts des sensibles propres mais des sensibles communs ont développé énormément l'imagination. C'est pour ça qu'on est une culture très imaginative. Et c'est pour ça qu'on perd le contact avec le réel. Et c'est pour ça que la dialectique l'emporte. Parce que la dialectique est le fruit de l'imaginaire. Et non pas des sensibles propres. Les sensibles propres conduisent au jugement d'existence. Et les sensibles communs conduisent à la dialectique. Là, il y a une origine extrêmement intéressante à noter. Essayez de comprendre en critique. Je constate dans ma vie, je peux très bien le constater, alors, il y a cette remarque que font les psychanalystes. À propos de l'image, parce que vous savez bien que il y a la psychanalyse se sert énormément des rêves, des images, des fantasmes qu'on a en dormant. Et si vous êtes psychanalysé, dès que vous vous réveillez, vous devez noter toutes les images que vous avez eues pendant la nuit, tous les songes que vous avez eus pendant la nuit. Je ne crois pas qu'on doit le faire quand on est de bon sens. Et quand on n'est pas psychanalysé, faites pas trop ça. Une introspection qui, je ne sais pas si elle est tellement bonne. Mais si vous êtes sous le coup d'une analyse, on vous demandera ça. Alors, l'image, c'est le fruit de l'imagination, icône. En mot grec, puisque c'est un mot qui se francise aujourd'hui, on parle d'icône, bon, c'est l'image. L'image, c'est la représentation. Le toucher. Qu'est-ce que c'est? C'est ni la représentation, ni la sensation. L'intelligence, la signification. L'intelligence implique la signification, alors que l'image implique la représentation. Et je vous avais dit, le symbole, qui est le fruit de l'imagination et de l'intelligence, implique représentation et signification. La synthèse des deux. l'éducation et l'intelligence. L'art. L'art, il est lié au symbole. Parce que l'art a un pied dans l'imagination, un pied dans l'intelligence. Ou un œil dans l'imagination. Et le toucher. Connaissance sensible, radicale, fondamentale. Vous ne pouvez pas descendre plus bas dans la connaissance que le toucher. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le toucher. Le toucher. Et vous transposez le toucher. Et qu'est-ce que c'est que le toucher ? C'est un contact. Intentionnel qui implique c'est très mystérieux le toucher et c'est très difficile d'aller plus bas parce que c'est la connaissance la plus fondamentale, c'est une connaissance mais c'est une connaissance d'un vague. Quelle est l'acuité que vous touchez par le toucher? C'est un contact. Un contact dans la connaissance. C'est ça le toucher, c'est un contact dans la connaissance. Et donc c'est un contact intentionnel. Donc sensation, contact intentionnel. Qui implique un contact physique. Un contact physique, il faut être tout proche. Vous ne pouvez pas toucher quelqu'un à distance. Inventer cet instrument, toucher à distance, on touche son auditoire. Comme les actes des apôtres qui disent qu'après le premier sermon de Pierre, c'est la traduction du Père Hostie, il y a des cœurs qui ont été piqués. On voit très bien ce que c'est. Ça vous a piqué, ça vous a atteint. Une petite flèche. Contact. Un contact pointu.
Lointain et un contact immédiat, sans
sans intermédiaire. Le contact lointain implique un intermédiaire, ce que les anciens appelaient le diaphane. Un contact lointain qu'on peut changer. C'est parce qu'au fond, on ne connaît pas grand-chose. Réfléchissez sur ce. Qu'est-ce que c'est que la vision ? On dit sensation à l'égard d'une qualité de la lumière. Et quand je vois, je ne deviens pas nécessairement lumineux. Mais la vision, la lumière trop forte peut contaminer mon organe. Et l'intentionnalité, la connaissance, elle est au-delà du contact physique, biologique. La connaissance se fait au point de vue intentionnel. C'est là où on découvre en premier lieu l'intentionnalité, là. C'est au niveau de la sensation. Quand vous faites l'analyse, alors ici, quand vous faites l'analyse du toucher ou de la vision, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous dites, je vois telle chose, je touche telle qualité. Donc vous précisez la détermination de cette vision et de ce toucher par l'objet. Alors, c'est très important puisque c'est là où apparaît en premier lieu ce qu'est l'objet. Puis le sujet connaissant. Ah, l'objet, c'est la qualité que vous voyez, que vous touchez. C'est la qualité sensible, c'est le sensible comme tel, sensible propre qui vous détermine. Le sensible commun conditionne, modifie, voire une couleur, n'est-ce pas ? Très étendue, voire un point dans une très grande étendue, c'est tout à fait différent. Voire une couleur qui va à toute vitesse, du moins qui passe devant vos yeux à toute vitesse, c'est autre chose que de voir une couleur que vous pouvez regarder paisiblement. Le mouvement, la grandeur conditionne la vision. Mais n'est pas la vision. La vision, c'est ce qui est atteint. Vous voyez, alors j'ai dit, contact, ce qui est atteint. Donc la connaissance sensible, c'est un contact intentionnel. J'ajoute tout de suite intentionnel, dont j'ai conscience. J'ai conscience de toucher quelque chose qui n'est pas moi. J'ai conscience de toucher quelque chose qui peut me brutaliser. Si c'est une chaleur bouillante, ça me contamine. Et en même temps qu'il y a contamination de l'organe, il y a connaissance. Mais quand la contamination de l'organe est trop forte, situation limite, je ne sens plus rien. Ah, vous voyez, comme la sensation est une connaissance fragile, puisqu'elle dépend du conditionnement dans lequel je suis, et du conditionnement de l'objet. Et il y a des extrêmes, situations limites. Pour bien voir, il ne faut pas dépasser des limites, surtout si mon organe est fatigué. À une certaine distance, je ne vois plus. Oui, je vois les sensibles communs. Je vois qu'il y a du nombre dans le fond. Il y a des sièges vides. Oui. Une connaissance vague. Or, la connaissance des sens demande d'être déterminée, sauf le toucher. Le toucher est toujours vague. Le toucher se fait toujours dans l'obscurité. Même quand il fait clair. Pourquoi ? Parce que du fait même que vous touchez, vous supprimez la lumière. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas de lumière, vous êtes plus attentif à votre toucher. plus à ce moment-là. Et donc toute votre capitale d'attention est tournée vers le toucher. Donc voyez, si j'essaie de comprendre la signification profonde de la sensation, je n'ai pas de mots propres. Signification, représentation, c'est pas la sensation. Cherchez quel mot vous pourriez mettre. Quand je dis contact, quand je dis atteinte, tout ça c'est biologique. Avant, c'est organique, je veux dire. C'est physique. C'est pas intentionnel. Alors ça, c'est terrible. Parce que je reste nécessairement dans le vague.